du jour avec le Père Willem.
Quelles sont nos racines religieuses ? Alors, la mondialisation peut engendrer une partie de repères. La question de l'identité nationale s'invite souvent dans les débats publics. Le christianisme a-t-il vraiment forgé la civilisation occidentale ? Quel est l'apport du paganisme antique, des Gaulois aux Romains, à notre société ? Dans quelle mesure le judaïsme et l'islam ont-ils pu contribuer à bâtir notre identité ? Héritière de l'humanisme et des Lumières, notre république laïque n'est-elle pas plus mystique qu'on pourrait le penser ? En 5 siècles, de la conversion de Constantin au sacre de Charlemagne, le christianisme s'impose comme la religion de l'Occident. J'ai fait un rêve. Voilà ce qu'aurait pu dire l'empereur romain d'Occident au matin du 28 octobre 312. En ce jour décisif, il s'apprête à affronter son rival Maxence qui a usurpé Rome et l'Italie. Or, la nuit précédant la bataille, Constantin aurait vu Jésus en songe lui montrer un étrange symbole. Les 2 premières lettres grecques du nom de Christ, chi et ros, superposées et croisées. Par ceci tu vaincras, le prévient Jésus. Légende ou réalité, qu'importe, Constantin décide d'arborer le chrisme lors du combat. Par cet acte audacieux, le jeune empereur va littéralement changer la face du monde. Car de l'audace, il en fallait beaucoup d'audace pour oser afficher le symbole d'une minorité honnie, celle des chrétiens. À l'aube du 4e siècle, il ne constitue encore aux yeux des païens qu'une secte aux mœurs étranges, une secte persécutée jusqu'en 311. Qui aurait cru que l'année suivante, le César allait faire de cette superstition sa religion personnelle ? Certes, il obtient la victoire contre Maxence au Pamphilius. En se convertissant au christianisme, Constantin n'a clairement plus rien à perdre. Il a surtout à gagner. Il risque de se mettre à dos la majorité de son peuple. Pourtant, le souverain persiste et signe. D'abord timide, son attachement à la religion chrétienne se fait plus évident au lendemain de l'élimination de son autre rival, Licinius, l'empereur d'Orient. Constantin a réalisé son rêve. Il a réunifié l'ensemble de l'Empire romain. Plus que tout, il tient à sauvegarder l'unité de cet immense territoire. Alors, perçoit-il dans le christianisme avec son Dieu unique comme un élément fédérateur, contrairement au paganisme et à sa cohorte de divinités qui varient d'une région à l'autre ? Ou éprouve-t-il un attachement sincère pour cette religion originale ? Les deux raisons s'entrecroisent sans doute, la conversion de Constantin s'inscrivant dans un projet où se confondent piété et pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que Constantin va déployer des trésors d'énergie pour assurer la diffusion du christianisme. Il multiplie les dons à l'Église, instaure le dimanche comme jour de repos, fait construire des lieux de culte, fonde Constantinople, la Rome chrétienne, et surtout, il veille à ce que l'Église, qu'il considère comme un rouage sur lequel l'État doit s'appuyer, maintienne une absolue cohésion. d'où son combat contre les hérésies qui fleurissent dans les rangs même des chrétiens. Il convoque des conciles, dont celui de Nicée, qu'il préside en 325, pour préciser le dogme. Pourtant, si Constantin apparaît comme le président de l'Église, selon l'historien Paul Veyn, c'est un chrétien modéré qui n'oblige pas la population à se convertir de force. Prudent, il fait attention de ne pas choquer ses sujets et demeure, par exemple, Pontifex Maximus, grand pontife des cultes païens. Mais en recevant le baptême sur son lit de mort, Constantin donne l'impulsion finale à la révolution religieuse amorcée en 302. Encore quelques années, et en sera fini de l'antiquité païenne. Désormais, l'Empire sera chrétien ou ne sera pas. Et qu'en faisons-nous de ce passé aujourd'hui? Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui en notre Église, dans cette société en pleine transformation, nous avons ces racines de notre christianisme?